Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
Je me rappelle de dire à mon thérapeute, c'est extrêmement triste, je ne fais que dire non, je dis tout le temps non. Il y avait une période de ma vie où je disais tout le temps oui. J'ai dit oui à un mariage, j'ai dit oui à des projets d'enfants, j'ai dit oui à un projet de boulot. C'était oui. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être là, non, non. Et j'enlève et je dis c'est extrêmement triste. Il me dit c'est le processus. Alors je m'appelle Anne. J'ai dirigé pendant 7 ans un magazine féminin dans un grand groupe de presse. Que j'ai quitté il y a presque 5 ans maintenant. Je suis aujourd'hui enseignante de Kundalini Yoga, psychothérapeute intégrative avec un axe en sexothérapie. Donc je suis sexothérapeute. Bon, ce que je peux dire, c'est que je suis journaliste, voilà, à la base. Et puis par hasard, je suis rentrée dans le monde de la presse féminine et de la beauté. C'était pas un souhait ni une vocation, ça s'est fait un peu comme ça par le hasard des rencontres. Et puis ça a duré plusieurs années, c'était plutôt chouette. Et ensuite, je suis rentrée chez Lagardère pour créer le magazine Bi. Bi, c'était une équipe de 55 personnes, donc diriger 55 personnes. Ça consiste à représenter le magazine aussi, donc à être très exposée. On sait que la presse féminine est aussi une presse qui vit grâce à la pub, donc ça veut dire qu'on va dans les événements, qu'on va au défilé de mode. En plus, ça peut se passer à Dubaï, ça peut se passer à Singapour, ça peut se passer à Dallas, bon, ça peut se passer au Grand Palais, mais bon, c'est assez glamour. Pour autant, c'est quand même un travail. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. ça nous oblige aussi à être dans ce rôle, en fait. C'est vrai que moi, par exemple, j'ai complètement changé ma manière de m'habiller. Avant, j'avais un budget coiffeur, brushing. J'étais que en talons. On est très regardé, donc l'apparence est regardée et jugée. Comment elle est habillée, ceci et cela. Donc, il y a quand même une pression. Et puis, on est peu chez soi, parce que du coup, les soirs, il y a toujours quelque chose. Donc, il y a des soirs où on est juste crevé, en fait. Après une journée de boulot, on veut rentrer chez soi et manger une soupe et regarder un film. Ben non, il faut encore repartir et il faut se repréparer, et il faut être pétillante, et il faut être vive, et il faut être... voilà. Bon, enfin, c'est pas le bagne. Hein. Et très vite, peut-être par la lourdeur d'un grand groupe, c'est des chiffres toutes les semaines qui tombent, les chiffres de vente, c'est les équipes où il y a des problèmes, donc chacun vient dire ça va pas, c'est les papiers qui sont pas rendus, le rythme aussi de l'hebdo qui est assez infernal, avec le bouclage qui revient toutes les semaines, donc ce côté vraiment très répétitif, etc. Et puis les enjeux, hein, parce qu'un lancement d'un hebdomadaire, c'est des millions d'euros, donc cette pression, elle s'installe tout de suite sur les épaules de la directrice de rédaction, qui en fait est à un poste où elle a la rédaction en dessous, et puis au-dessus, le groupe, et voilà. Donc, c'est un peu une pression dans les deux sens, quoi. Et après, en même temps, on met ses talons, et on va dire, mais tout va bien, c'est merveilleux. Ouais. Et c'est vrai que dans le même moment, en fait, au moment où le magazine s'est lancé, où ça devenait très difficile pour moi de tenir ce rythme et tout ça, ma vie personnelle était un peu chaotique. C'est la période où je me suis séparée du père de mes enfants. C'était pas une période facile. Donc un peu dans toutes les sphères de ma vie, je me sentais un peu pressurisée et commençait à monter ce truc de ouais, ma vie m'échappe un peu. Enfin voilà, un sentiment de j'étais trop à ma place nulle part, en fait. C'était une vie à 100 à 1000 à l'heure, quoi. 1000 à l'heure, tout était trop. J'étais en sur-régime total pendant des années. J'ai que je faisais tout à l'excès. Il y a eu des années où j'ai beaucoup trop bu, je suis beaucoup trop sortie, je m'étais séparée, j'ai enchaîné sur d'autres relations, sur d'autres histoires. Il n'y avait jamais un espace vide. Jamais. Toutes les cases étaient remplies, quoi. L'agenda débordait. Et j'avais les enfants et j'avais voilà, des relations, etc. C'était full, full, full. À l'époque, mon corps doit obéir à mon mental qui lui dit « tu dois être comme ci, tu dois être comme ça ». Comme si c'était un cheval et lui mettre comme ça des coups de cravache et on y va et on y va. Il y a une forme de déconnexion et d'ailleurs c'est un très bon exemple. C'est que je me souviens d'aller voir mon gynécologue à un moment voulant avoir un deuxième enfant. J'en avais un qui avait 2 ans, le premier. Et je lui dis, je voudrais vraiment avoir un deuxième enfant, il faut vraiment avoir un deuxième enfant, mais là, j'ai pas mes règles depuis 3 mois. Il m'ausculte, et il me dit, bon, vous êtes donc enceinte de 2 mois et demi. Et d'ailleurs, il m'a dit, vous êtes marrante, hein, vous les femmes de votre génération et tout, avec vos boulots de dingue, vous êtes aux commandes, etc. Mais en fait, là, ce qui se passe dans votre corps, là, c'est-à-dire que là, vous venez me voir en me disant, il faut faire quelque chose, je peux pas avoir d'enfant, vous êtes enceinte de 2 mois et demi. Il n'y a pas un truc qui... Ouais. Et je me revois quitter mon bureau de la rédaction, courir dans le couloir avec sans arrêt des hémorragies. Je me rappelle encore de jeans blancs remplis de sang. Et j'allais dans le showroom de la mode et je disais, vous pouvez me passer un pantalon et tout ça. Et puis, je ne sais pas, je repartais bosser. Et puis, bon, j'avais fait des examens à l'époque, je me souviens. Et au final, il n'y avait rien de véritablement dangereux. Mais ça, ce sont des signaux. Donc c'est vrai qu'on ne m'a pas dit « t'as un cancer ». J'ai des amis à qui c'est arrivé. Moi, je me rappelle de copines à moi qui m'ont dit « putain, en fait, je pense qu'il me fallait ça à un moment pour m'arrêter. » Parce qu'en fait, maintenant que j'y pense, des signaux, j'en ai eu plein. Mais ce n'était pas assez costaud, ce n'était pas assez fort, donc je n'ai pas écouté. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout dans ce truc que le corps est notre premier renseignant, en fait. Que c'est que tous les messages qu'on doit recevoir dans cette vie passent par le corps. C'est ce mot, hein, vraiment, la maladie. Hein. Qu'est-ce que le mal me dit ? Donc, ralenti, voilà. Et puis, selon là où le mal se trouve, ça ne dit pas la même chose. Donc, après, à nous de décrypter, de capter ces messages. Et puis, ça a germé, et puis ça a commencé à se durcir jusqu'à l'aube de la quarantaine. Et je suis arrivée un jour chez un thérapeute à terre, quoi. Et je lui dis, il n'y a rien qui va, en fait. Il n'y a rien qui va, mon boulot, ça ne va pas, j'ai l'impression qu'on tous les jours qu'on m'arrache des bouts, et ma vie perso, ça ne va pas. Donc j'étais à terre, bon, ça a été le début déjà du truc. On était dans cette période où ça devenait compliqué pour la presse papier. Donc en fait, en permanence, on nous demandait plus, plus, plus. J'ai eu l'impression de nager à contre-courant, et c'est épuisant en fait. C'est-à-dire que ce n'était jamais, jamais assez. Et puis finalement, à un moment, voilà, on nous dit, bon, bah, le groupe va vendre 10 titres. Dombi. Donc c'était une super mauvaise nouvelle sur le moment. C'était quand même mon bébé, c'était un projet que j'avais porté, que j'avais mis au monde. Et au final, c'est vrai qu'aujourd'hui, je dis que ce moment où finalement, il y a quelque chose qui se passe qui ne m'appartient pas, a été le petit coup de pouce du destin qui me permet à un moment de dire « Ok, j'en suis là maintenant, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête ?» J'allais avoir 42 ans. On sait tous que voilà, la quarantaine amène, c'est un peu quand même ces questions existentielles. Donc je me suis dit, ne loupe pas ce coche et pars. Donc j'ai dit non, j'ai dit, ben moi je pars. Je me rappelle très bien du dernier bouclage où j'ai fermé la porte de mon bureau, j'ai regardé cet open space où j'avais passé tellement, tellement d'heures et de temps. Et où j'avais. Et je me suis dit, c'est vraiment une page qui se tourne. Et j'ai dit non à des jobs équivalents qu'on me proposait. Donc j'aurais juste fait la même chose ailleurs. Là, évidemment, autour de moi, on me disait « mais ça va pas, mais il fait froid dehors, tu sais qu'aujourd'hui c'est très difficile, etc. » J'ai mis aussi un terme à certaines relations, ça n'allait pas non plus. En fait, rien n'allait. Généralement, ça va ensemble, hein, en fait. C'est ce que les gens souvent se disent, c'est la loi des séries. Bah ouais, mais c'est logique, en fait. Quelque chose qui est en disharmonie. Je savais qu'il allait avoir un moment de vide. Mais en fait, j'y étais vraiment préparée. Et je savais que j'aurais 2 ans de sécurité, voilà. Voilà, un droit au chômage, que j'aurais pas le même salaire et tout, mais j'avais quand même quelque chose sur lequel m'appuyer, je partais pas sans rien. Et vraiment, le courage que j'ai eu, c'est à moi de me dire, ok, reste dans cet espace vide, fais du vide, fais de la place en fait. Et ça, c'est essentiel pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Et je me rappelle de dire à mon thérapeute, celui que j'étais allée voir justement au lendemain de mon anniversaire de mes 40 ans, et de lui dire, c'est extrêmement triste, je ne fais que dire non. Je dis tout le temps non. Il y avait une période de ma vie où je disais tout le temps oui. J'ai dit oui à un mariage, j'ai dit oui à des projets d'enfants, j'ai dit oui à un projet de boulot. C'était oui, c'était oui. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être là, non, non. Et j'enlève et je dis, c'est extrêmement triste. Il me dit, c'est le processus. Et en fait, c'est vrai que c'est ça. On enlève des choses qui ne nous vont plus. Mon agenda s'est tout à coup complètement vidé. Je sortais encore un petit peu à l'époque. Et les gens me disaient, dans mon milieu, etc., ils me disaient, bah alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est quoi ton projet? Je disais, bah rien. Et donc là, je voyais vraiment que les gens étaient super crispés et très mal à l'aise. Tu sais, ce truc de sortir du game. Je me rappelle même que mon père, mon ex-mari, me disait, non mais attends, mais il faut bosser, hein. Enfin, tu peux pas, enfin, comment tu vas faire et tout. Je dis, mais je peux prendre un peu de temps. J'ai besoin de temps, en fait. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je ne sais pas. J'ai besoin de temps pour savoir. Et effectivement, ça demande de se protéger des avis des autres, qui vont tous avoir une opinion. Je pars donc qu'à une vie sociale. La dernière rupture que j'ai eue était en juin 2015, donc un peu moins d'un an après avoir quitté Bi. Et après, je suis rentrée dans une phase de jachère ou d'abstinence choisie. J'ai commencé à jeûner à cette époque. Je suis partie jeûner dans des temps très longs, des 2 semaines de jeûne. Et en fait, ça s'est fait dans tous les domaines de ma vie. Et moi qui n'avais jamais été célibataire un seul jour, je suis rentrée dans une phase où j'ai expérimenté aussi ça. Je pense qu'à une période de ma vie, c'était inconcevable de ne pas avoir quelqu'un. Je me disais, mais c'est la misère, quoi. Et puis je ne pourrais pas. Et bien, puis en fait, si. Puis en fait, si. Et ça, c'était aussi une grande victoire. Donc en fait, c'est aussi tout un travail d'autonomie. Mais en fait, j'ai aussi compris que être libre, c'est pas faire tout ce qu'on veut, en fait. C'est vraiment faire comme on veut. Moi, je me considérais quand même comme une femme super libre. Ouais, mais bien sûr que je vis mes désirs et tout. Mais inconsciemment, on est ultra formaté par notre éducation, par le poids de la société. On répond énormément au modèle qu'on a introjecté de comment on doit réussir, de dans quel milieu on doit réussir. Je me suis rendu compte que j'avais fait plein de choses pour les autres, pas pour moi. Donc bien évidemment que des fois je me disais, mais c'est quoi ton problème? Est-ce que tu es une éternelle insatisfaite? Bon, je faisais déjà du yoga, hein, et ça m'a beaucoup aidé à tenir mon cap. Et puis au bout de 6 mois, a émergé cette envie de reprendre des études de psychologie. Moi, je savais que je voulais rester aussi dans le corps. Et donc, je me suis lancée dans 4 années d'études pour être psychothérapeute intégrative. Je voulais, après ces 4 années, accompagner des gens. J'avais l'impression d'avoir l'Himalaya devant moi. J'ai 42 ans, 4 ans d'études. Ça me paraissait 4 ans énorme. Aujourd'hui, mais c'est passé comme ça. Mais comme ça. J'ai l'impression que c'était hier. Et je me souviens que j'avais une thérapeute, parce que j'en ai plusieurs, hein, parce qu'il fallait quand même des appuis. Donc en fait, moi j'étais comme ça, je la regardais, elle était là, et derrière elle, elle avait un tableau, et c'était une passerelle, donc une passerelle en corde, comme ça, dans la brume. Et au fond de la brume, il y avait une forêt, mais qu'on ne voyait pas vraiment. Et je lui parlais, et je me disais, bah, je suis là moi, je suis sur cette passerelle, pas stable, en corde, qui va d'une rive à une autre, mais à genre 10 mètres de haut, et au bout, c'est dans la brume, donc je ne sais pas. Je me souviens encore de la période où toutes les aides se sont arrêtées. Ça, c'était aussi une autre étape. Je me suis dit, bon, et je n'avais pas fini mes études, etc. Donc là, j'ai fait beaucoup de renoncements aussi, hein, vraiment matériels. Il y a plein de choses que je faisais, que je n'ai plus fait. Plus de shopping, pas de vacances. Enfin, j'allais chez des amis, des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance aussi, en fait, pendant cette période. De plein de gens qui m'ont dit, bah, viens chez nous, etc. Parce que clairement, je ne pouvais pas partir en vacances avec mes enfants, quoi. Et ouais, c'est de l'investissement sur soi, sur le futur, quoi. À cette période-là de ma vie où j'allais pas super bien, paf, j'ai rencontré le Kundalini, par hasard, à Marseille. Dès le début, en fait, les premiers cours que j'ai fait, on a chanté des mantras. J'ai adoré cette dimension, je trouve extrêmement joyeuse, libératrice aussi de plein d'émotions. Et en pratiquant beaucoup, j'ai fait beaucoup de retraites, etc. Ça rejoignait tellement de choses que j'étais en train d'explorer. Je me suis dit, je veux aller plus loin dans cette discipline, je veux en savoir plus. Et j'ai fait ma première formation d'enseignant, mon premier teacher training. Puis un jour, une femme que j'avais rencontrée dans une retraite, elle me dit, je veux que tu me donnes des cours. Et j'ai commencé comme ça, mais avec une élève. Et puis, les élèves sont venus, quoi. Jusqu'à un moment, faire 11 cours par semaine. Ça fera 2 ans que j'enseigne, que j'ai commencé ces petits cours ici, chez moi. Le mois prochain, je vais m'agrandir dans un espace professionnel qui sera toujours le mien. Et c'est de la même manière que le yoga, la pratique thérapeutique a commencé un peu comme ça, de manière organique, par hasard en fait. Je reçois un mail donc d'une femme. J'avais déjà validé tout un cursus en sexothérapie, en gestalt-thérapie. Et on fait beaucoup d'entraînement dans les écoles, contrairement à la fac. Donc tout le temps, on est en entraînement à la pratique thérapeutique. Donc c'est vrai qu'on est capable d'accompagner quelqu'un. Et ce que m'ont dit mes profs, ils m'ont dit, t'as envie ou pas? Je dis, ils me disent, donc t'y vas. Enfin, c'est des patients qui font de nous un thérapeute. C'est là, pour l'instant, t'es à l'école, tu t'entraînes avec tes pères et avec nous, etc. Mais à un moment, faut y aller, quoi. Tout me parlait aussi dans la demande de la patiente. Et j'ai adoré. J'ai adoré. C'est ça la reconversion, c'est ça, il y a une fin à quelque chose pour renaître à autre chose. Mais s'il n'y a pas mort, rupture, fin, il n'y a pas début. Et c'est pour ça d'ailleurs, ce matin, je parle à mes élèves de l'abondance. Et je gagne certainement beaucoup moins d'argent que j'ai pu gagner à une époque. Je ne suis plus en CDI, je n'ai pas toute cette sécurité qu'on peut avoir quand on est salarié. Mais je me sens vraiment dans une forme d'abondance. C'est-à-dire que je me sens florissante, je suis épanouie, je me sens riche, en fait, de tout ce que j'ai, de tout ce que je reçois, des rencontres, des opportunités. Je me vois poursuivre, en fait, sur ce chemin. En fait, cette abondance, elle n'a rien à voir avec ce qu'on a. Puisque moi, je connais des gens qui ont énormément d'argent, ils ne se sentent absolument pas dans l'abondance. Pas du tout. Plus on est proche de soi-même, plus on est proche on est dans cette vérité de qui on est, plus on est dans cette abondance-là.
C'était un entretien mené par Laurence Velli et réalisé par Sydney Clazen. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis. Réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.